Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue sur Environ, le podcast sur l'histoire de l'environnement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un espace que nous avons tous et toutes fréquenté, ou au moins entendu parler une fois dans notre vie, c'est la forêt. Comme le goût d'une madeleine faisant ressurgir l'enfance chez Proust, la forêt fera penser à certains et certaines d'entre vous à des oiseaux, d'autres à des clairières, des souvenirs, des émotions, à un sentiment de sérénité ou bien même de l'enchantement. Des pensées plus négatives peuvent également ressurgir, comme l'insécurité dans une forêt la nuit, les animaux sauvages qui y vivent, le labyrinthe végétal qu'une forêt peut devenir, ou bien même les sorcières. Bref, la forêt fascine, elle a maintes et maintes fois été l'image de ce que nous appelons la nature, souvent opposée à la civilisation, mais on a également subi des contre-coups, son déboisement, son exploitation, sa destruction, et est devenue au fur et à mesure un espace à protéger et à conserver. Mais cette protection ne date pas exclusivement d'aujourd'hui avec les mouvements activistes environnementaux, on va donc essayer de voir comment la protection de la forêt s'est construite dans l'histoire, surtout celle française, et pourquoi. Je n'en dis pas plus, et allons ensemble découvrir ce nouvel environ. Précédemment, j'ai évoqué ce que pouvait signifier la forêt pour la plupart d'entre vous, mais quelle est l'étymologie de cette dernière? Pour la définir rapidement, une forêt c'est une vaste étendue de terrain couverte d'arbres, un point c'est tout. C'est l'ensemble des arbres qui couvrent cette étendue. La seule différence avec le bois est une question de taille, une forêt étant plus grande qu'un bois. Le mot « foresta » apparaît pour la première fois dans les lois des Lombards, ancien peuple germanique d'origine scandinave s'étant installé en Italie à partir de 568 après Jésus-Christ. Ces lois protègent essentiellement les guerriers et par exemple, durant un combat, si vous étiez tenté de tirer la barbe de votre adversaire, partie du corps qui est sacrée chez les Lombards, vous pouviez être puni avec une grande sévérité.
Pas la barbe !
On retrouve également le mot foresta dans les capitulaires de Charlemagne, qui sont des actes législatifs si vous voulez. Guillaume Budet, un écrivain humaniste français ayant vécu entre le 15e et le 16e siècle, écrit dans son œuvre De Philologia Libri que les latins ont formé le mot foresta en rattachant les mots fera et statio, signifiant habitat sûr pour des bêtes. Il y a donc ici une idée de refuge, d'asile pour la vie sauvage, mais ne vous méprenez pas, ce terme était surtout utilisé non pas pour désigner les régions boisées, mais plutôt les lieux de chasse. C'est ensuite que son sens se transformera en ce que nous définissons aujourd'hui comme forêt. Bon, je vais tricher un peu. Avant de vous parler de la protection des forêts par l'homme, j'aimerais tout de même aborder le sujet des divinités qui protègent les forêts. Dans beaucoup de cultures pré-européennes, romaines, grecques, celtes et germaines, profaner une forêt, même juste en glissant un orteil dedans, c'était risquer de s'en prendre plein la figure et provoquer un enchaînement d'événements néfastes. Il suffit juste de regarder la tragique histoire de Prométhée qui, symbole de la domestication de la nature, a apporté le feu et la technique aux hommes. Ce qui lui a valu la punition d'être attaché à vie à un rocher et se faire dévorer le foie tous les jours par un piaf. C'est bien connu, les dieux et déesses ne sont pas les plus sympas chez le peuple grec ou celui romain. Par exemple, Artémis, chez les Grecs, déesse de la chasse et protectrice des forêts, n'a pas trop aimé que le jeune Actéon, au cours d'une partie de chasse et après s'être égaré, l'ait malencontreusement aperçu prendre son bain au milieu de la forêt. Elle le transforme en cerf et il se voit poursuivi par ses propres chiens puis dévoré par ces derniers, incapables de reconnaître leur maître sous cette nouvelle forme. Le chasseur devient donc le chassé. Dans cette histoire, il y a tout un lien entre le fait qu'Artémis était réputée être la déesse chaste et que le fait qu'Actéon la voit dénudée était comme une tentative de viol de cette chasteté. Transposer cela au niveau réel maintenant, sa chasteté représente les forêts vierges qui s'étendent au-delà des cités grecques et romaines et Actéon, quant à lui, représente les hommes qui tentent de pénétrer impunément dans ces forêts pour y exploiter les ressources via la chasse. Dans la ville grecque d'Éphèse, on la célébrait en castrant des taureaux et en faisant des guirlandes avec leurs bourses que l'on disposait autour d'une statue de la déesse.
Charles !
S'il vous arrive un jour de vous confronter à un homme sexiste, dites-lui que vous faites partie du culte d'Artémis, et s'il aligne 2-3 neurones, je vous promets qu'il sera vite dissuadé. Vous serez heureux et heureuse de savoir qu'Artémis existe également chez les Gaulois sous les traits de la déesse Arduna, protectrice de la forêt mais surtout celle des Ardennes. Son pouvoir n'était pas des moindres car, selon les dires du poète Lucain, même des Romains auraient refusé d'exécuter l'ordre de César de découper des arbres de forêt gauloise, de peur que par maléfice, leur propre hache leur revienne en pleine poire. Clairement, ça donne pas trop envie de s'attaquer à l'arbre. Il est également intéressant de noter que très souvent, les divinités protectrices de la forêt sont souvent des figures féminines. Gaïa, Aradiani dans l'hindouisme, Medeina dans la mythologie lituanienne, Ra chez les nordiques, Mielikiki et sa fille Telerio chez les finlandais, Abnoba chez les celtes, etc. Par extension, c'est souvent à une déesse et non à un dieu que l'on attribue la protection de la nature. Dans beaucoup de langues, dont la nôtre, il est même question d'une mère nature. Il y a aussi l'idée que cette divinité est souvent vierge et que les hommes, pour le bien de la civilisation, doivent la dompter, la conquérir.
Eh ben voyons.
Ainsi, le patriarcat, incarné par les religions monothéistes, peut trouver ses origines en ce qu'il incite les hommes à se différencier de la nature, à se séparer d'elle et pourtant à s'en servir. La civilisation se base sur l'opposition, alors que sous le règne de la divinité des bois, tout est en symbiose, en unité. C'est d'ailleurs cette unité que la déesse des forêts protège. Artemis représente la forêt, c'est elle qui décide qui est le chasseur et qui est la proie, ce faisant, elle se protège de tout sacrilège pouvant venir des hommes. On peut faire remonter la politique de protection des forêts au Moyen-Âge, où la forêt passe de protégée par une divinité à possédée par la royauté. Au XIe siècle en Angleterre, dans un poème de la Peterborough Chronicle, relatant l'histoire anglaise après le passage de Guillaume le Conquérant, il est dit que ce dernier adore encore plus la chasse que la conquête, qu'il aime tant les cerfs qu'il se considère comme leur père. Il va jusqu'à confisquer des territoires entiers pour son plaisir de la chasse, et si ça, c'est pas aimer les animaux, je sais pas ce qu'il vous faut franchement. Plus sérieusement, la loi de Guillaume le Conquérant entourant la forêt est d'une extrême sévérité. Dans les pires des cas, les infractions à cette loi pouvaient être punies par l'énucléation ou même la castration. On peut imaginer derrière ce châtiment une représentation d'un privilège royal lié au sexe, où seul le roi en possède un, et du coup uniquement lui peut pénétrer la forêt. Cela fait-il de lui un fervent protecteur de la nature ? Bah si vous voulez, selon les poèmes des chroniques de Peterborough, Guillaume avait plus de respect pour un lièvre que pour son peuple, il se moquait des critiques qu'on lui faisait par rapport à ses lois de protection radicales. Étant roi, il pouvait se considérer au-dessus de tous les hommes.
Oh là là ! King in the castle, king in the castle !
Avançons maintenant un peu dans le temps. En 1291, en France, le roi Philippe le Bel crée l'administration des eaux et forêts afin de réguler l'exploitation et, dans le pire des cas, la surexploitation des forêts françaises. Le problème est que la démographie augmente de plus en plus à la fin du siècle et les forêts sont l'objet de différents conflits entre les paysans pour les zones de pâturage. De plus, à l'époque, pour se chauffer, on ne pouvait pas vraiment compter sur GDF, du coup les réserves de bois baissent de plus en plus. Ajoutez à cela l'utilisation intensive du bois pour la construction de bateaux pour le commerce, ou même l'effort de guerre. Surtout que l'on approche dangereusement de la guerre de Cent Ans, qui commence en 1337, et là du bois il va en falloir si vous voulez marbrer de l'anglais. En 1346, le roi Philippe de Valois tente de remédier à cette surconsommation et fonde le premier code forestier. Il ordonne ensuite en 1349 à tous les forestiers de France de protéger les forêts afin que ces dernières restent en bon état pour la postérité. S'il vous était tenté de prendre un peu plus de bois que prévu, c'était juste un aller simple vers la condamnation à mort. Chez les Français, comme chez les Anglais, visiblement, on ne plaisante pas avec Mère Nature. Toujours en France, en 1661, on se rend compte que malgré les différentes réformes appliquées pour la protection de la forêt, cette dernière continue à diminuer en espace. Intervient donc Colbert, secrétaire d'État de la Marine et surintendant des eaux et forêts sous Louis XIV, qui décide de lancer une opération nationale de protection et contrôle des forêts. Son but est de protéger les ressources en bois en quantité et en qualité, de réglementer l'utilisation des forêts à des fins économiques pour la production de bois de la marine, encore une fois, et enfin de faire en sorte que la couronne ait le contrôle le plus total sur les forêts.
Wow !
La multiplication des fonctions de protecteur de la forêt qu'il y a eu, avec ensuite la révolution et le passage à l'ère industrielle, décrivent un peu un scénario où l'homme est incapable de protéger une forêt et sa durabilité. Dans les faits, la dégradation de cette dernière a été réelle, mais elle s'étendait surtout autour des villes et des villages, des fleuves ou littoraux. Le manque de voies de communication avant les chemins de fer ne permettait pas d'exploiter les forêts massives plus isolées. L'historienne des forêts André Corvol, dans son livre « L'homme au bois », explique justement qu'au XVIIe siècle, la crise forestière n'existe pas, pas plus qu'au XVIIIe siècle, voire au XIXe siècle. Avec le passage de la méthode scientifique du philosophe Descartes, père des Lumières, les hommes pensent se rendre seigneurs et maîtres de la nature, la forêt est réduite à sa simple utilité de fournisseuse de bois. Chaque personnage veut protéger les forêts, mais pour leur usage. La protection de la forêt n'est pas recherchée pour elle-même, c'est d'ailleurs tout le contraire. Elle est protégée, mais pour une meilleure exploitation de ses richesses, pour ses usages et avantages, l'acte est fait principalement pour le profit des élites au pouvoir et pour qu'elles se persuadent qu'il n'y a aucun risque d'épuiser ses richesses. Il n'y a pas, à proprement parler, autant chez Guillaume le Conquérant que chez Colbert, de volonté écologique derrière ces actes. Protéger la forêt, oui, mais uniquement pour mieux la maîtriser et l'exploiter pour le profit des hommes.
Oh, ça c'est pas très gentil!
La civilisation, patriarcale, exerce un ascendant sur la forêt et par extension la nature, matriarcale. À la fin du 19e siècle et durant le 20e, la protection de la forêt prend un nouveau sens. Mais attention, c'est pas pour autant que l'on arrête les politiques d'exploitation, voire de déforestation dans de nombreux pays. Là, je vous parle juste de nouvelles pensées qui émergent. Déjà, contrairement aux pensées plus anciennes, il y a de moins en moins la distinction entre la civilisation et la forêt. Les mentalités, très influencées par le romantisme et le symbolisme, tendent vers un discours qui désigne la destruction des forêts comme un symptôme d'une déchéance des nations. Déboiser et détruire les forêts est devenu détruire l'humanité elle-même. Les sociétés de défense des paysages et des forêts tentent de sauvegarder ces derniers pour des raisons de richesse nationale. La protection de la forêt prend alors une perspective esthétique et nationaliste, voire patriotique.
Ma France à moi, elle est joyeuse.
Au début du XXe siècle, plusieurs parcs nationaux sont créés pour préserver des zones forestières de toute détérioration, et en vérité, ces parcs et zones protégées peuvent être comparés à des musées naturels où les forêts sont idéalisées et admirées pour leur côté sauvage. Je suis presque certain que c'est à ce moment-là que le tourisme vert s'est créé. Une distance est donc toujours maintenue entre l'homme et la nature, comme une sorte d'enfant devant une vitrine de confiserie à qui l'on dirait « tu peux toucher mais uniquement avec tes yeux ». Surtout que dans ces zones forestières, des personnes y habitent, et les personnes légiférant les espaces de protection se font la guerre avec elles pour épurer les forêts de toute race humaine. C'était pas trop le moment de créer une cabane dans la forêt si vous vouliez vivre en ermite. La politique de protection et ainsi de préservation n'est donc pas tournée vers une volonté de sauvegarder un écosystème, mais plutôt vers du tourisme et un sentiment patriotique de forêt nationale à conserver pour leur beauté. Les personnes se rendent cependant compte que la forêt a ses limites en ressources, qu'elle est fragile, et par conséquent, une civilisation qui en dépend l'est tout autant.
Emotional damage.
Dès 1930, des scientifiques et protecteurs des forêts demandent la création de zones protégées afin de renouveler les écosystèmes de ces dernières. Il y a une logique de reconstruction de ces espaces, mais comme je l'ai énoncé précédemment, la principale finalité a surtout été la création de lieux sauvages à admirer. À partir des années 70, le ministère de la Protection de la Nature et de l'Environnement est créé. Et c'est au même moment aux États-Unis que l'histoire de l'environnement émerge. Et la cause environnementale prend alors une ampleur considérable. La France adopte une politique de défense des écosystèmes poussée par le Congrès de Stockholm en 1972. De nombreuses conférences s'en suivent afin de créer tout un programme de protection de l'environnement, mais cette fois-ci dans un souci de sauvegarder l'environnement, et pas pour ses richesses ni sa beauté, mais simplement pour ne pas caner à l'avenir. Ce qui est une raison assez évidente qu'il aura fallu plus de 2000 ans à comprendre. Plusieurs politiques sont adoptées pour la protection des forêts. On peut par exemple citer la constitution de 1988 au Brésil pour la préservation et protection de l'Amazonie, ou bien les nouveaux principes de gestion des forêts promulgués en 1992 durant la conférence des Nations Unies à Rio, appelée également le sommet Planète Terre. Quand bien même l'avancée de l'écologie et de la sensibilité à la protection des forêts en ce qu'elles sont et non en ce qu'elles pourraient nous apporter, il y a toujours aujourd'hui une philosophie qui persiste à séparer l'homme de la nature. Il y a bien des exemples qui montrent l'inverse. En Amazonie, les peuples autochtones prélèvent et replantent les espèces en forêt depuis des centaines d'années. Cette population protège dans une certaine mesure la forêt en la régénérant. Le cliché de voir ce peuple comme non civilisé fonctionne pour le coup, dans le sens où ce dernier tente de créer l'unité avec la forêt, pas la séparation.
Quelle ironie.
Dans l'histoire de la forêt, l'humain désigne souvent cette dernière comme une zone extérieure à la civilisation. Le mot foresta signifie lui-même « en dehors ». Pourquoi alors protéger les forêts si être humain signifie être constamment en dehors d'elles ? Protéger la forêt est-il un acte qui va à l'encontre de l'humain ? Je vous laisse réfléchir à ces questions. J'aimerais enfin vous parler d'une situation complètement inverse. C'est le cas des forêts de protection. Si vous voulez, une forêt de protection, c'est une forêt qui préserve la sécurité de ses habitants ou riverains contre certains dangers naturels, ou bien qui préserve la santé et la qualité de vie de ces derniers. Même si certaines sont historiques, on va pas se mentir, aujourd'hui très souvent ces forêts sont le fruit d'aménagements et de restaurations lancées par des biologistes contre les risques sismiques, l'érosion, la chaleur aussi, etc. Dans certains pays, des boisements de petite taille peuvent être plantés et ou protégés pour contribuer à la dépollution des eaux de surface et à la protection des nappes et champs fournissant l'eau potable. Même au niveau médical, une forêt peut protéger des maladies. Une étude en Inde en 1987 a démontré qu'après la destruction de la forêt de Kesanur, située dans le sud-ouest de l'Inde, les tiques chassées de la forêt se sont rabattues sur l'espace rural, provoquant des épidémies de grippe et d'encéphalite mortelle que les habitants interprétèrent comme une sorte de châtiment infligé par les dieux de la forêt détruite.
La colère de Dieu va s'abattre sur la France.
Une terre sans forêt deviendrait sans aucun doute un désert, il y aurait alors moins d'eau et moins d'oxygène. En effet, plus la biomasse est importante, plus la capacité de stockage de CO2 est grande. Sans les forêts, les humains sont condamnés à disparaître. Chateaubriand disait même « Les forêts précèdent les peuples et les déserts les suivent ». Alors protéger les forêts, c'est un peu se protéger soi-même finalement. Je vous remercie pour votre écoute de cet épisode consacré à l'histoire de la protection des forêts. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'ai choisi une aire qui se concentre majoritairement sur l'Europe et plus particulièrement la France. Je ne doute pas qu'il y ait énormément de travaux qui ont été faits dans les autres régions du globe concernant cette histoire, mais il était plus simple et également plus concis de faire ce choix. De plus, les éléments qui peuvent manquer seront intégrés dans les prochains épisodes où je parlerai de forêts ou même de nature. N'hésitez surtout pas à me faire des retours, à commenter, partager, à en parler autour de vous, toujours en toute bienveillance, à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à la page Instagram du podcast, le nom est dans la description de l'épisode. C'est d'ailleurs sur cette dernière que vous pourrez retrouver un résumé de l'épisode, ainsi que la bibliographie et les sources que j'ai utilisées. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se sépare. En attendant les prochains épisodes, je vous dis
au revoir
et à très vite sur Environ.